Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque semaine, comme chaque mercredi matin sur Radio Patrimoine. On est ensemble pour une petite heure afin de gérer au mieux vos placements. Pour ce faire, vous le savez, les meilleurs experts se pressent et se retrouvent sur le plateau pour vous donner un maximum de conseils, décortiquer un marché, évoquer une stratégie ou mettre en lumière un aspect de la gestion de patrimoine. Alors au sommaire de ce 44e numéro, on va s'intéresser à la profession de CGP, de conseiller en gestion de patrimoine à l'occasion de la publication du baromètre de la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine. Et puis, on verra qu'on peut investir en immobilier avec de l'impact. On est dans le monde ESG, bien évidemment. Ensuite, on décortiquera les tout derniers chiffres d'EY sur les levées de fonds dans la tech, en insistant, bien sûr, sur la France. Enfin, on causera SCPI, parce que c'est un placement auquel vous êtes, bien évidemment, très attaché. C'est parti pour Cœur de patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et pour débuter, on accueille donc le patron de la CNCGP, Julien Serracchi. Bonjour Julien.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous de Cœur de patrimoine, au rendez-vous aussi de ce baromètre que vous publiez maintenant depuis plusieurs fois et qui permet vraiment de prendre le pouls de cette profession que la CNCGP notamment représente, celle des conseillers en gestion de patrimoine. Alors le nombre d'adhérents a considérablement augmenté ces dernières années. Quels sont les facteurs finalement qui expliquent cette croissance et comment l'organisme que vous représentez, Julien, prend par la main, j'imagine, un peu, accompagne ces petits nouveaux?
Effectivement, on a une croissance très forte. Là, on atteint les 4500 personnes physiques et les 2500 cabinets. Je me souviens, il y a quelques années, quand j'ai commencé ma présidence, les chiffres, c'était plutôt 1800 cabinets, quelque chose comme ça, et puis 2500, 3000 personnes physiques. Donc oui, il y a une croissance très forte. Elle s'explique par deux raisons. D'abord, avec la réforme du courtage, on a accueilli des courtiers qui nous ont rejoints. Donc ça, c'est à peu près aujourd'hui 15 à 20% de nos effectifs, mais c'est pas ça qui explique la croissance très très forte. Finalement, c'est que c'est une croissance de marché, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de CGP qui s'installent, qui viennent des banques, des bandes privées ou d'autres réseaux, et qui viennent s'installer, créer leur cabinet et donc avoir leur propre société. Et ça marche très très fort. On va parler du baromètre. Le baromètre, il est fait pour montrer que la profession est en pleine croissance. On va citer plein de chiffres, mais des chiffres très intéressants et très impactants qui intéressent vraiment tout le monde. Et c'est ça, en fait, c'est qu'il y a une croissance endogène du marché.
Alors, vous avez dit un petit mot rapide et on ne va pas se réétendre sur cette réforme du courtage, mais malgré tout, c'était, j'ai envie de dire, un peu une nouvelle race, entre guillemets, d'adhérents qui a fait son arrivée avec cette réforme-là. Est-ce qu'il y a eu des changements qui ont été apportés par cette réforme et puis par l'arrivée de ces gens-là, entre guillemets, dans votre secteur?
Alors, il n'y a pas eu une réforme de l'association en tant que telle. Alors, on a eu l'agrément de la CPR parce qu'il fallait l'avoir, bien entendu, mais on n'a vraiment pris que des courtiers en assurance ou en IOB qui faisaient déjà notre métier.
D'accord.
C'est-à-dire qui faisaient de la vie.
Donc, vous avez déjà été très sélectif.
On a été très, très sélectif. On a refusé plus de 8000, j'ai arrêté de compter à 8000, mais on a refusé 8000 candidatures. Parce que, évidemment, dès qu'on parle de courtier en assurance, on parle beaucoup d'assurance dommage. Et nous, c'est pas du tout ce qu'on fait, l'assurance dommage. Et donc, on a sélectionné à l'entrée pour avoir des courtiers qui nous ressemblent. C'est pour ça que ça n'a pas du tout changé l'ADN de l'association. Mais évidemment, il fallait leur assurer des services propres, une responsabilité civile propre. Et donc, on a adapté à la marge ces questions-là.
Alors, on rentre un petit peu dans le dur. C'est quoi le profil type de l'adhérent de la CNCGP?
Il a 48 ans, et quand il rentre chez nous, il a 42 ans. Le nouvel admis, il a 42 ans, et le dirigeant moyen, il a 48 ans. On a de plus en plus de femmes. Moi, j'aime beaucoup mettre ça en avant. Là, on a atteint pour la première fois, parmi les dirigeants, 20% de femmes. Alors, je dis parmi les dirigeants parce que parmi les équipes salariées, ça fait longtemps qu'on est à 50-50 entre hommes et femmes, et c'est un ratio qui ne bouge pas. Mais évidemment, quand on se concentre sur les dirigeants, c'est pour se concentrer sur les dirigeantes et de montrer qu'il y a de plus en plus de femmes qui créent leur cabinet. Et ça, on le voit massivement à l'admission.
Et alors, comment on fait pour encourager? J'essaye d'avoir, c'est pas toujours le cas, mais dans les émissions de nombreuses expertes, comment on fait pour encourager justement certaines peut-être à monter et à prendre des responsabilités responsabilités dans les états-majors, entre guillemets, sur les différentes strates de la CNCGP?
Alors déjà, elles n'ont pas besoin de nous pour le faire, parce qu'elles sont évidemment aussi compétentes que les hommes. Mais surtout, moi, ce que j'essaye de faire, c'est dans mon conseil d'administration, d'avoir beaucoup plus de femmes administratrices qu'il n'y en a en proportion dans le métier, pour montrer que les femmes arrivent à ces postes de responsabilité-là, et évidemment qu'elles sont aussi performantes que les hommes, voire plus. Mais je le répète, elles n'ont vraiment pas besoin de nous, de toute façon, pour y accéder.
Alors, on continue un petit peu à parcourir ce baromètre, parce que c'est assez intéressant de voir un petit peu tous les chiffres qu'on trouve et qui nous permettent de prendre le pouls de cette profession, et notamment le chiffre d'affaires moyen des adhérents. Alors, je parlais du nombre d'adhérents, mais leur chiffre d'affaires moyen est également en progression, les encours gérés aussi. Quelles sont les principales sources de croissance de ce monde du conseil en gestion de patrimoine ?
Ça, c'est intéressant, parce qu'on est encore dans une phase, nous, les CGP, où on a une forte croissance de nos parts de marché. En même temps, on ne se marche pas encore sur les pieds, puisque cette part de marché, elle n'est pas suffisante pour qu'on soit en concurrence les uns avec les autres. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on prend des parts de marché au réseau bancaire ou au réseau assis, on appelle ça comme ça, des banques ou des compagnies d'assurance, parce qu'il y a toute une partie de notre cœur de cible, qui est ce qu'on appelle la clientèle patrimoniale. Ça commence avec quelques dizaines de milliers d'euros d'encours jusqu'à quelques millions. En dessous, c'est le mass market, et au-dessus, on va dire que c'est la clientèle des banques privées, même si beaucoup de CGP ont des clients de type banque privée. Et sur cette clientèle patrimoniale-là, en fait, on est en train de récupérer tout ce qu'il y a dans les autres réseaux et les réseaux bancaires dont j'ai parlé. Donc c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est une croissance endogène, c'est-à-dire qu'on a juste besoin de bien faire notre métier, d'être disponible pour acquérir des clients simplement.
Et il n'y a pas d'autres défis, entre guillemets, à relever pour, on va dire, conserver cette croissance, parce que il y a un moment, ça pourrait finir par se tasser une fois que vous aurez, si je vous suis, siphonné les réseaux assis.
Les défis ne se posent pas encore du point de vue de l'industrie elle-même. Ils se posent évidemment pour chaque cabinet, de dire comment je vais me développer, comment je vais avoir plus de clients, comment je vais avoir un meilleur service. Ça, oui, chaque CGP se pose la question dans son cabinet. Mais en termes d'industrie, on n'en est pas là, parce que dans la courbe de croissance de l'industrie, on n'est pas du tout encore arrivé à maturité. On a encore tellement de parts de marché à aller chercher que cette question-là, on se la posera, à mon avis, post-2030. Voire post-2035. Moi, je dis, la décennie 2020-2030, c'est l'âge d'or des CGP. C'est le moment où on prend des parts de marché très facilement, sans être en concurrence les uns avec les autres. Donc, il y a une réflexion qu'on mène au niveau de l'industrie elle-même sur qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans ou dans 10 ans, mais c'est quand même encore assez loin. Mais évidemment, chaque cabinet se pose la question, notamment sur les questions numériques, de digitalisation, de cybersécurité. On en a eu la preuve il n'y a pas si longtemps, de qu'est-ce qu'on fait dans son cabinet pour mettre tout ça en œuvre.
Un petit mot aussi de la répartition géographique, parce que c'est pas... je vais enfoncer une porte ouverte, hein. Il y a Paris, il y a les grandes métropoles, et puis après, il y a le reste du pays. Est-ce que c'est le cas aussi ? Est-ce que les cabinets de CGP sont majoritairement, on va dire, en Ile-de-France, dans les grandes métropoles, et puis que quand on s'en éloigne, c'est plus compliqué de trouver son CGP ?
Alors, évidemment, Paris représente un tiers des cabinets, mais ça, c'est un grand classique dans beaucoup d'industries. Après, vous avez l'axe Lyon-Marseille. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, Bordeaux, par exemple, est passé devant Marseille. Vous voyez, la région Aquitaine est passée devant la région PACA en nombre de cabinets. On a fait un petit calcul. On s'est dit, mais finalement, un Français, il est à quelle distance, où qu'il soit en France, d'un cabinet de gestion de patrimoine ? Et ben, vous êtes à 15 kilomètres au plus loin d'un cabinet de gestion de patrimoine, parce qu'il y en a aujourd'hui absolument partout en France, même dans des zones moins denses en termes de population.
Vous avez des cabinets de CGP. Mais dans la Creuse, c'est facile de trouver un CGP ?
Et dans la Creuse, c'est facile de se déplacer et de trouver un CGP.
Ne m'en voulez pas pour les représentants de la Creuse, c'est un peu le cliché, hélas. Et du coup, un organisme comme la CNCGP, il a tendance pas à chouchouter, mais à prendre un peu plus soin d'un cabinet qui est peut-être plus isolé, pour qui reste, par exemple, ou qui se développe aussi bien que celui qui est à Bordeaux, à Rennes, à Nantes, à Lyon.
Et évidemment, on peut dire, celui à Paris, il n'a pas besoin de nous pour rencontrer les assets, pour rencontrer les assureurs, ils sont tous à Paris. En revanche, dès que vous êtes en province, et encore plus si vous n'êtes pas dans un des grands pôles, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, vous avez évidemment besoin de la CNCGP pour le faire, parce que nous, on le fait via toutes les formations qu'on fait en France. On a plus de 60 événements en France pour des formations, et lors de ces 60 événements, on fait venir des partenaires, des assets et des assureurs pour qu'ils puissent rencontrer évidemment des CGP qui sont plus isolés. Donc on a une réflexion vraiment autour des régions pour animer le réseau des régions, et puis pour parce qu'on a bien conscience qu'il y a une utilité sociale à notre métier, et qu'effectivement, bah, le CGP, qui est, alors, tu citais l'exemple de la Creuse, mais ou d'une autre région moins densément peuplée, il va faire beaucoup de choses en fait pour son client, parce que ça va être son homme de confiance. Et donc ce CGP là, il faut le chouchouter évidemment, et il faut lui apporter le plus de services possible.
Alors vous avez rappelé l'importance de tout ce qui est contact donc avec l'organisation, etc., et notamment le pilier formation. Qu'est-ce que vous avez fait récemment qui a marqué plus particulièrement, on va dire, cette nécessité, parce que c'est une nécessité réglementaire, hein, de se former pour un CGP, d'être à la page?
Bah, ce qu'on fait, donc, c'est ces 60 événements dont j'ai parlé, et puis surtout on fait ce qu'on appelle des universitaires. Alors, on réunit plusieurs régions et on va se réunir à 150-200 CGP, alors d'une même région ou pas. Avant on le faisait par région, mais maintenant les gens traversent la France, finalement ils sont dans le nord, ils disent tiens, il y a une université à Bordeaux, bah, ça va être sympa, je vais faire ma formation, et puis derrière les deux jours de formation je vais rester à Bordeaux un ou deux jours parce que c'est le week-end et je vais en profiter en famille. Et ça, ce format d'université, il a énormément de succès, il dure deux jours, et on en est à 6 universités, on va passer à 7 et bientôt à 8 parce qu'on a tellement de demandes qu'on est obligé de multiplier ce format qui plaît beaucoup à nos adhérents, puisque une fois qu'ils ont fait une université deux jours et puis trois jours de réunion régionale, ça c'est trois événements d'une journée, ils ont fait toute leur formation pour l'année.
Ah oui. Un petit mot aussi de la digitalisation. Vous êtes passé tout à l'heure un petit peu dessus, et c'est vrai que c'est un aspect important du métier. On en a beaucoup parlé, évidemment, au moment de la crise Covid, etc. Et j'imagine que c'est un rôle aussi essentiel d'une organisation comme la CNCGP, que d'accompagner finalement ses membres, et puis de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire la transition, avoir les agrégateurs de comptes, les services d'analyse de fonds. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui se cachent derrière de réalité, qui se cachent derrière le mot digital.
Vous avez cité le Covid, et je crois que le Covid a été un accélérateur fabuleux de la digitalisation. Et donc, on n'en est plus dans la réflexion de la digitalisation. Ça, c'est déjà le passé. Là, aujourd'hui, on a deux réflexions en tête qui sont comment utiliser l'intelligence artificielle. On a sorti
un guide notamment,
voilà, sur ce sujet. C'est comment est-ce qu'on applique dans son cabinet l'intelligence artificielle et comment on l'utilise. Donc ça, c'est vraiment un grand point d'interrogation. Et puis, à partir du moment où on s'est numérisé, où on s'est digitalisé, où beaucoup de cabinets n'ont plus de papier, c'est la question de la cybersécurité, c'est-à-dire comment est-ce que derrière, quand on collecte toutes ces datas, toutes ces données, comment est-ce qu'on les sécurise? Et ça, c'est la réflexion qu'on est en train de mener aujourd'hui, c'est-à-dire comment un cabinet doit pouvoir sécuriser les données de ses clients.
Alors, si vous voulez reprendre tout ça, vous pouvez notamment vous référer au podcast, hein, puisqu'on avait reçu Sandrine Genet et Vincent Courroyer qui étaient venus présenter ce guide, et vous saurez tout sur le guide de l'IA pour le CGP.
Juste une chose, Cédric, c'est que c'est vraiment un sujet difficile, le sujet de la cybersécurité, parce que c'est un sujet qui est au croisement, évidemment, de compétences techniques. Nous, les CGP, on n'est pas des professionnels de la cybersécurité. Donc, au croisement de ces connaissances techniques-là et au croisement de la réglementation aussi, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout faire, il y a des lois et des obligations à respecter. Donc, c'est vraiment un sujet qui est très complexe, qui nous demande beaucoup de réflexion en ce moment. Et on ne va pas sortir de notre chapeau, évidemment, des solutions faciles comme sauvegarder vos données. Si c'était que ça, ça serait évidemment trop facile et tout le monde pourrait le faire. Non, c'est qu'on est en train de travailler vraiment à réfléchir sur comment un cabinet doit s'organiser en matière de cybersécurité.
Ouais. Et on a vu dans l'histoire récente, avec certains fournisseurs, qu'effectivement, il pouvait y avoir quelques questions. Juste deux petites questions pour terminer. Une sur le reste de la profession, j'ai envie de dire, parce que le CGP, moi, je le vends souvent comme ça, c'est un peu comme le médecin de famille qui va vous ausculter, tout bien connaître de chez vous, et qui, quand il aura, entre guillemets, une difficulté ou un besoin, se tournera vers un autre professionnel et travailler vraiment en interprofessionnalité pour le plus grand bien de son client. Comment est-ce qu'on travaille justement? Comment est-ce que lorsqu'on préside la CNCGP, on règle un petit peu le pas sur le reste de la profession?
Voilà. Alors, le reste de la profession, c'est, on est tous des CGP, donc on fait tous...
Mais on peut penser aux notaires, aux experts comptables, aux avocats...
Évidemment, alors vous avez employé le terme de médecin du portefeuille, ou un terme en tout cas en rapport avec le médecin, c'est aussi le chef d'orchestre qu'on utilise beaucoup, et donc évidemment toutes les questions autour de l'interprofessionnalité se posent. Tous les CGP, je pense, travaillent par exemple avec des experts comptables qui leur apportent leurs clients, et évidemment le CGP dessus va appliquer ses connaissances. France, notamment sur tous les dispositifs d'épargne retraite, par exemple, ou d'épargne salariale. Les CGP sont très actifs, évidemment, sur les ventes immobilières avec le notaire aussi, évidemment, sur tous les sujets qui touchent les avocats, les créations de SCI, ce genre de choses. Donc, il y a vraiment un rôle de chef d'orchestre. J'ai essayé de développer des relations institutionnelles avec les ordres de ces métiers. C'est très compliqué, je vous le cache pas, parce qu'ils sont pas organisés comme nous. Là-bas, ils sont vraiment organisés par région. Et donc, il faut vraiment aller voir chaque président de région de l'ordre d'un tel ou d'un tel. Donc, c'est vraiment très lourd à mettre en œuvre. Et on essaye, on progresse peu à peu. Et ça va prendre du temps. Et comme toujours à la CNCGP, je pense que celui ou celle qui va me succéder dans quelques temps va essayer de bâtir sur les fondations qu'on aura laissées.
Allez-vous me lancer là-dessus, puisque ce sera ma question, ma dernière question. Vous terminez votre mission en tant que président de la CNCGP. Content, pas content, et puis derrière, un peu de prospective. Quelle vision vous avez maintenant, vous, pour après avoir occupé ce rôle pendant ces quelques années, quelle vision vous avez pour l'avenir de la profession, pour les évolutions réglementaires, technologiques, économiques, enfin... Le testament, entre guillemets, professionnel, présidentiel de Julien Serracchi.
C'est sûr que c'est une position déjà qui est extraordinaire. Parce qu'on fait son métier, on continue à faire son métier. Moi, tous les jours, j'étais dans mon cabinet de CGP.
Vous avez quand même un cabinet aussi.
Ah, oui, dans mon cabinet de CGP. Mais il faut. Il faut pour bien avoir conscience de c'est quoi la réalité d'un CGP. Donc, il faut surtout pas se couper de ses clients et ne faire que gérer l'association et en être le président. Donc, c'est vrai que c'est une fonction absolument extraordinaire parce qu'on continue à faire son métier tout en ayant une réflexion très profonde, tout en faisant du lobbying, tout en défendant les intérêts de ses adhérents. Et donc, vous devez vraiment discuter avec absolument tout l'écosystème, que ce soit des partenaires, que ce soit des tutelles, que ce soit des politiques français ou européens. Et ça, c'est absolument passionnant intellectuellement. Il faut vraiment avoir ça en tête, c'est que c'est une passion intellectuelle avant tout d'être président de la Chambre. C'est certainement pas pour sa propre gloire ou pour bénéficier de je ne sais quel avantage, c'est absolument pas le cas.
On le paye se faire ennuyer par Série de Cœur régulièrement.
Non, c'est un plaisir. Mais évidemment, derrière, on a une réflexion sur la profession qui est haute, parce qu'on n'a pas le nez dans le guidon, parce qu'on est, est en hauteur. Et donc, ce que je vois pour les CGP dans les 5-10 prochaines années, le grand défi, à mon avis, ça va être de dire « Ok, très bien, on croit beaucoup ». Ça veut dire qu'on devient des entreprises de plus en plus importantes. Ça veut dire qu'on recrute de plus en plus. Donc, il y a toutes ces réflexions de chef d'entreprise à mener, qu'avant, on ne menait pas forcément. Et aujourd'hui, on voit qu'on a des grands groupes de CGP qui ont plusieurs centaines de CGP salariés. Donc, il y a d'abord cette dimension. On est avant tout un chef d'entreprise. Et il y a ensuite le grand challenge qui va être comment je garde l'intuitu personnel avec mon client. Comment cette grande force du CGP, c'est-à-dire son contact très proche avec son client, on va le garder vu que nos structures deviennent de plus en plus grandes. Et je pense que le vrai challenge, il est là. On n'a pas de réponse aujourd'hui. Tant que ce sont des CGP qui sont à la manœuvre, j'ai aucun doute que ça se passera très bien. Dans 10 ans, 15 ans, quand ces CGP-là vont partir à la retraite, qu'est-ce qui va se passer pour l'intuitu personnel? C'est là qu'est la question et c'est là qu'est le challenge.
Merci Julien.
Merci Cédric.
Julien Serracchi, donc le président de la CNCGP. On se retrouvera au Midsommar dans quelques semaines et on verra qui, celle ou celui qui vous succédera. En tout cas, je serais ravi de vous y recroiser.
Le 12 juin, Midsommar, Maison de la Chimie et Musée Rodin. Ça va être extraordinaire comme les deux précédentes éditions.
Et bien évidemment, Radio Patrimoine y sera.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on poursuit notre voyage au cœur de votre patrimoine en accueillant Mehdi Gaïji. Bonjour.
Bonjour Cédric.
Vous êtes le président d'Horizon AM. Peut-être d'abord un petit portrait, rapide, mais un petit portrait d'Horizon. Qui êtes-vous?
Alors Horizon AM est la société de gestion de portefeuille du groupe Horizon. Elle est agréée par l'autorité des marchés financiers et elle développe des solutions d'épargne immobilière destinées aux particuliers et aux institutionnels. Historiquement, elle a développé une activité de financement de ce qu'on appelle le private equity immobilier, le capital D'accord. investissement immobilier. C'est le fait de financer la production de l'immeuble dans sa phase initiale. Et puis, au fur et à mesure, elle s'est développée, elle s'est diversifiée vers la détention immobilière, une activité un peu plus standard dans la compréhension de ce que c'est l'immobilier.
Alors, diversification pour Horizon, mais diversification aussi pour les placements de ceux qui vous feront confiance. Et on va tourner ce matin entre les domaines de l'hôtellerie, de l'aménagement foncier, du portage foncier, enfin voilà, tout ce que vous proposez à vos clients. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu justement pourquoi avoir diversifié à ce point la stratégie finalement d'Horizon AM ?
Alors, au début, on a démarré avec le financement principalement du logement, donc le résidentiel. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que la notion d'habitabilité englobait une réflexion beaucoup plus importante que uniquement le logement en tant que tel. Et donc, l'aménagement urbain étant la phase initiale, celle qui conçoit les règles urbanistiques, le portage foncier est une façon d'acquérir le foncier en vocation de projet futur. Et l'hôtellerie est une manière de résider différente. Donc, je dirais que ça s'est fait naturellement. Et c'est des classes aujourd'hui d'actifs immobiliers qui sont très résilientes dans le contexte. Donc aussi, cette réflexion de venir diversifier, être multisectoriel avec une réflexion d'habitabilité générale sur l'usage de l'immobilier, non seulement en tant que résidence principale, mais en le résidant même temporairement.
Alors, on va revenir sur de nombreux aspects, mais il y a un truc marquant quand on découvre un petit peu vos propositions, c'est l'impact très fort et l'intérêt de l'ESG dans toute votre réflexion. Comment est-ce qu'on concilie, enfin, c'est presque une question que chaque épargnant peut se poser et de se dire, bah oui, c'est bien de prendre en compte tous ces critères-là, mais est-ce que finalement, je ne vais pas y laisser un petit peu de plume en termes de rentabilité ? Enfin, en clair, comment est-ce qu'on concilie rentabilité, l'impact social, la responsabilité environnementale, quand on fait de l'investissement immobilier ?
Oui, déjà, en ayant l'objectif de le faire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées qui viennent opposer la performance économique avec des performances extra-financières. Je crois que c'est un monde qui est révolu aujourd'hui. En soi, il est parfaitement possible de concilier les deux. Par contre, il faut le concevoir. C'est ça la nuance. Et donc, cette conception, elle est assez naturelle. Quand vous produisez un immeuble, vous n'êtes pas un consommateur d'un produit fini. Vous pouvez agir dessus. Prendre un exemple très concret sur le plan environnemental. Quand on conçoit un projet d'aménagement, c'est souvent des friches polluées, bétonnées. Donc, on va faire des projets, nous, de dépollution, de renaturation, donc de amélioration de la perspective verte. Et donc, vous voyez, ça, c'est un exemple très, très facile à faire. Sur le plan strictement, par exemple, parce qu'on parlait d'ESG, le S, le social, quand vous concevez un projet, vous pouvez le dédier à une destination d'un public défavorisé qui a une difficulté d'accès, par exemple, au logement. Vous pouvez le destiner à un logement social. Vous pouvez aussi concevoir des éléments qui touchent à sa programmatique, par exemple, édifier des maisons médicales. C'est une thématique de grande actualité, puisque les médecins même sont, il me semble, en grève depuis quelques jours. Et donc voilà, en fin de compte, le temps de conception, le temps de développement est un temps privilégié. Enfin, sur la gouvernance, je finis juste là-dessus. Ouais. La gouvernance, chez Horizon AM, on a fait un choix que nos fonds d'investissement ne soient pas des fonds sans personnalité morale. On leur a donné une personnalité morale, ça veut dire que ce sont des sociétés, ce qui fait que les fonds appartiennent intégralement aux investisseurs et qu'ils ont un droit, celui de l'Assemblée générale, pour pouvoir voter pour ou contre, donc en fin de compte, un pouvoir de sanction. Donc vraiment, le ESG, on le vit grâce à cette classe d'actifs
dans de concepteurs. Dans toute son acception.
Absolument.
Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du fonds foncière, citoyenne et sociale, et notamment de ce fonctionnement, puisque c'est une société coopérative d'intérêt collectif.
Oui, là, on est allé chercher carrément l'extrémité.
C'est un ovni un peu dans le métier.
Oui, c'est un ovni. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. À notre connaissance, on est les seuls à le faire. Quand vous choisissez un fonds sous format de société coopérative d'intérêt économique, de puiser avec un agrément supplémentaire qui est l'agrément ESUS, entreprise solidaire et utilité sociale, ça veut dire que le fonds fait partie de l'économie sociale et solidaire, c'est un secteur à part. Alors, quand on dit société coopérative, un point numéro un, c'est la gouvernance. La gouvernance et la répartition capitalistique. Peu importe ce que vous mettez, chaque associé a une voix. Vous voyez, déjà, ça distord, je dirais, l'effet mécanique financier en tant que tel. Chacun est représenté.
D'accord.
Ensuite, sur le plan strictement de l'objet social de la société, on va faire toutes sortes de projets d'utilité sociale. Je disais, par exemple, développer des maisons médicales dans des déserts médicaux. Ça, c'est un point très important. Nous développons actuellement aussi des activités de tout ce qui est garde d'enfants. Donc là aussi, on s'adresse à nos bouts de choux. Il y a une très grosse pénurie en France sur la garde des enfants. Hein. Deux tiers ne bénéficient pas de place en crèche. Donc, il y a une activité vraiment assez importante là-dessus. On peut également développer des accessions de logement dans des dispositifs très spécifiques, tels que le Loc Avantage 2. Ce sont des accès de logement à des publics défavorisés qui n'ont pas la possibilité d'être solvables sur le marché conventionnel.
Alors, je vais mettre un peu les pieds dans le plat et faire mon Crésus, entre guillemets, mais il y a un intérêt fiscal à investir dans un produit comme celui-là. Enfin, on se dit, finalement, mon argent va servir à une utilité sociale. Donc, il y a quoi? Il y a une carotte fiscale?
Oui, alors bon, c'est effectivement...
On pose toujours la question comme ça en France. Hein, c'est comme ça, je suis désolé.
Non, mais c'est... En fait, compte, pour flécher l'épargne des particuliers vers effectivement cette dynamique, le législateur permet effectivement la réduction d'impôts de 25%, c'est ce qu'on appelle l'IR-PME. C'est très important parce qu'effectivement, c'est une motivation pour les épargnants à y aller, et heureusement. Par ailleurs, quand on souscrit dans ce genre de fonds, on est exonéré de l'IFI, puisque les parts sociales qu'on achète rentrent dans un cadre spécifique de l'ESUS, comme je l'ai évoqué, et ça permet un abattement sur son IFI, voire une exonération.
Une petite cerise sur le gâteau.
Et effectivement, c'est un attrait qui n'est pas neutre, parce que ça permet effectivement d'avoir un effet de levier.
Comment est-ce que vous sélectionnez les projets? Là, vous nous avez parlé de cabinets médicaux, de garde d'enfants. Enfin, voilà, on entend bien la fibre sociale, mais comment est-ce que vous sélectionnez tel ou tel projet?
Alors, classiquement, comme tout gérant, il y a un diagnostic économique. Il faut que l'opération soit économiquement viable. Ça, je dirais, c'est le standard.
Donc, ce n'est pas utopique?
Pas du tout, pas du tout.
Non, mais c'est important.
La plupart des rentabilités qui sont acquises dans le fonds tourne à l'actif entre 5 à 8% de rendement.
D'accord. Donc là, on n'est pas du tout dans l'utopie.
Non,
c'est rentable.
Tout à fait. Ce qui les spécifie, c'est plutôt un diagnostic territorial. Quand vous vous implantez quelque part sur un territoire pour implanter, par exemple, une micro-crèche, c'est une étude assez importante de la localité, de la garde d'enfants, de la sociologie, mais de l'administration également, des autorisations auprès des CAF, des PMI, etc. Donc un travail d'ingénierie assez important. Voilà. Et il faut le considérer en tant que tel. Et enfin, il y a un diagnostic, je dirais, ESG strictement parlant, puisque le but, nous, tous les projets, 100% des projets que nous étudions, sont passés au tatami ESG. Et le but, c'est que quand on a une note initiale qui est généralement en dessous de la moyenne, le but, c'est de valoriser pour qu'on soit largement au-dessus de la moyenne, pour ne pas dire, je l'espère, un jour ou l'autre, arriver à la maximisation absolue. D'accord. Donc, effectivement, il y a une triptyque de diagnostic pour permettre... faire en sorte que ce produit reste dans ses qualités intrinsèques.
On sent dans vos propos, dans votre enthousiasme, vraiment une conviction profonde. Et du coup, je m'interroge, les épargnants qui choisissent de vous faire confiance et de venir mettre leur épargne dans les produits et au service des idées que vous portez, ce sont... finalement des clients comme les autres, un numéro, j'ai envie de dire, dans un fonds, ou est-ce que finalement ce sont des clients un peu particuliers parce que ESG-isés, entre guillemets, parce que investis, parce que impactés, parce que convertis, enfin, et est-ce que du coup vous les accompagnez de façon peut-être un petit peu plus spécifique, plus particulière, je sais pas, avec un reporting, avec un suivi plus, voilà, je sais pas, plus important?
Alors, tout un chacun peut avoir une réflexion d'une épargne citoyenne. On est tous citoyens en payant des impôts, donc on est un peu passif. En investissant dans ce genre de fonds, on fait une démarche active. Donc on peut être citoyen, on peut effectivement faire des économies d'impôts, mais en participant autrement aux bienfaits communautaires. Alors, donc forcément, je dirais qu'on s'adresse à tout le monde. Après, c'est à nous d'aller chercher cette fibre pour faire expliciter qu'il y a la possibilité de conjuguer effectivement, variable financière. L'objectif du fonds, c'est de faire l'inflation avec l'économie d'impôt, c'est plus de 5%.
D'accord.
Ça se défend quand on fait quelque chose d'utile économiquement, socialement et localement. Il faut rappeler qu'on est dans des visions géopolitiques heurtées. Si on peut investir chez nous dans une utilité immédiate, tant mieux. Alors après, bien sûr, vis-à-vis des investisseurs, nous avons la possibilité d'assurer des communications transparentes. On a trois tons principaux. Je l'évoquais tout à l'heure, un ton annuel qui est l'Assemblée Générale, un temps vraiment fondamental, parce que c'est une publication des comptes auditée par des commissaires aux comptes et validée par les actionnaires qui sont là. Un temps qui est semestriel, on fait un reporting précis sur tout ce que nous faisons, ligne par ligne, donc du portefeuille, pour voir l'évolution de la gestion des projets. Et enfin, un temps trimestriel, où là, carrément, c'est des visions que nous organisons pour communiquer directement et répondre aux questions-réponses.
Alors, vous nous avez dit un mot du rendement. Maintenant, en étant hyper concret, là, si je vous demande peut-être un ou deux exemples illustrés, on va dire, de l'investissement type de votre foncière, qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en avant?
Déjà, je vais rappeler que le ticket, il est à partir de 3 000 euros. Donc, vous voyez, c'est déjà...
Oui, c'est abordable.
C'est une belle diversification pour ceux qui souhaitent le faire. Si je prends des exemples concrets que nous venons d'effectuer, nous venons de livrer une maison médicale sur Saint-Germain-les-Corbeilles, dans le 91, 1200 m2, soutenue par la mairie, bénéficiant de subventions qu'on a versées à la mairie en tant que telle. Et elle est remplie de médecins et de fonctions paramédicales qui touchent aux soins. Donc ça, c'est quelque chose qui est très récent. On peut également développer, actuellement, on développe une micro-crèche 12 berceaux sur la commune de la Grande Paroisse, dans le 77, en Seine-Marne. Donc, vous voyez, dans une commune ne bénéficiant pas forcément d'aura économique majeure. Là aussi, on est allé chercher des subventions également et on est en train de préparer une livraison au courant 2026 pour répondre à des besoins. Et d'ores et déjà, alors qu'on n'a même pas qu'à démarrer la gestion du chantier et sa livraison, la crèche déjà est pleine. Donc il y a vraiment des gros besoins. Donc ça, ce sont deux exemples concrets. Je peux vous en citer des dizaines.
J'imagine. Bon, si je bénéficie justement, pour terminer un petit peu, de votre œil sur ce monde, dans le monde ESG, c'est vrai qu'on essaye de percevoir un peu les tendances, de regarder comment ça peut se développer ou plus ou moins souffrir. C'est vrai que là, si on regarde globalement, l'arrivée de Donald Trump a fait poser certaines questions sur la façon d'aborder les critères ESG, exclure ou prendre du best in class. Enfin, il y avait beaucoup de questions. Sur ce monde un peu immobilier responsable, quelle est votre vision du temps qui vient et comment est-ce que vous pensez, à la modeste place, j'ai envie de dire, d'Horizon AM, être capable d'y apporter votre pierre?
Alors, au-delà d'une atrophie conjoncturelle géopolitique, la tendance nous paraît être une tendance de fond, ce qui paraît être une nécessité, planétaire, et va devenir, et en train de devenir, la norme et une évidence. Tout un chacun, aujourd'hui, vous et moi, on cherche du sens dans nos actions quotidiennes. Et quand on est épargnant, on a la possibilité, à son niveau, de participer à un effort conjugué qui a une utilité et une retombée économique immédiate. Et je crois que ça vaut tous les discours. Donc nous, on y croit à fond. On veut juste amener de plus en plus de pédagogie pour permettre que ces épargnes-là se flèchent vers ce genre de support. Et on a ce privilège d'être sur une classe d'actifs qui est le temps de la conception et le développement. C'est le meilleur temps qui soit, puisque c'est quand vous concevez un produit, c'est à ce moment-là que vous pouvez agir dessus plutôt que venir derrière le restructurer, qu'une démarche plus lourde, plus difficile à faire. Donc nous pensons qu'on a une classe d'actifs qui s'adapte parfaitement. Donc nous, on invite tout le monde à venir regarder, à s'y intéresser. Sincèrement, pour 3 000 euros, je pense qu'il est possible de se diversifier, de dire on y va.
C'est vendu. Mehdi Gaïji, merci beaucoup d'être passé sur le plateau de Cœur de Patrimoine pour Horizon AM.
Merci bien, à bientôt.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et c'est Sébastien Coinon que l'on retrouve à présent. Bonjour Sébastien.
Bonjour Cédric, ravi de revenir dans Cœur de Patrimoine.
Merci d'être au rendez-vous pour So We Found, animateur aussi du podcast Tech 45, dans lequel vous recevez toutes celles et ceux qui font cette fameuse French Tech. Et on va parcourir un petit peu les tout derniers chiffres de ce monde-là, histoire de prendre le pouls qui a plus beaucoup de... On a moins de sensations peut-être un petit peu avec un recul marqué sur ce capital risque en France.
Ouais, j'ai pas très beau... Pas bonne nouvelle, malheureusement, pour vous, Cédric, et pour votre audience, auditeurs, téléspectateurs qui vous suivent, enfin, sur YouTube aussi. Alors, c'est pas mes chiffres, donc en plus, ils sont tamponnés. Ouais. C'est du solide par EY, le cabinet, qui sort son baromètre tous les trimestres. Donc là, c'est vraiment la dernière fournée arrêtée au 31 mars 2025. Et c'est vrai que c'est pas bon. On est à 1,4 milliard d'euros levés, donc sur les trois derniers mois, sur 150 startups françaises. Donc, vous voyez, c'est pas beaucoup en volume et en valeur. Et c'est vrai que c'est une baisse. C'est une baisse à deux chiffres. Moins 14% en volume, moins 19% en valeur. Ouais. Ça,
donc,
c'est
quand bon. On dit pas brillant, c'est pas c'est, brillant. Hein.
Voilà, c'est pour nous, je vous avais prévenu. Il y aura, je sais pas s'il y aura des bonnes nouvelles dans les prochaines minutes, mais on va essayer quand même de parfois de voir le verre à moitié plein. Tout n'est pas noir. Donc, rappelons-nous juste pour dézoomer, en 2023, la France dominait l'Europe continentale. Là, avec les chiffres que je vous donne, on est toujours sur le podium, mais on est relégué à la troisième place. On est derrière l'Allemagne. Eux, ils ont levé pratiquement 300 millions d'euros de plus que nous. Et il y a toujours devant, mais même loin devant, là, ils sont en train, on les voit quasiment plus. Le Royaume-Uni qui accélère.
Non, mais ça compte pas, ils sont pas sur le continent.
Et ouais, mais le problème, c'est qu'ils sont pas déménagés. Ils sont plus dans l'Europe économique. Mais voilà.
Mais ils nous chipent toujours du pognon.
Et ouais, ça attire là, ça aspire notamment tout ce qui est investissement en intelligence artificielle. Encore ça, encore l'IA. Et du coup, donc, le UK conserve sa place de leader. Je vous donne le chiffre, Cédric. Je vous ai dit plus 20%, mais ça ne vous parle pas plus que ça. C'est 4,3 milliards. Je vous ai dit, pour nous, c'est 1,4 milliard. Donc, ils font juste x3. Hein, là, vous prenez la tech, la Brit tech, c'est 3 fois la French tech.
Ouais. Bon, il faut dire que la French tech, on ne l'a pas aidée. Le contexte économique, j'ai même envie de dire politique, est plus qu'incertain.
Ouais, alors bon, le contexte global, il n'est pas terrible, donc j'ai envie de dire, on a tous le même terrain de jeu, sauf qu'en plus, en France, on aime bien se rajouter quelques petites difficultés, et c'est vrai que depuis maintenant un an, c'est compliqué en France, instabilité économique, instabilité politique, ça freine les investissements, vous savez mieux que moi, Cédric, notamment en bourse, hein, on dit que voilà, on a coutume de dire, quand les investisseurs doutent, ils savent pas ce qu'il faut faire, ils retirent leurs billes, ils se mettent cash, ils vont sur des actifs moins risqués, quoique il y en a de moins en moins, mais bon... Bah sur le capital risque, c'est pareil, sauf qu'il n'y a pas vraiment d'actifs pas risqués. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on se met en mode pause, voilà. Il y a du brouillard, j'attends. Et dans les levées de fonds, donc les startups en sont totalement indépendantes, en tout cas celles qu'on regarde, chez EY ou chez SoFund, évidemment, c'est celles qui ouvrent leur capital et ont besoin d'accélérer avec de nouveaux investisseurs tous les ans, tous les deux ans. Bah là, ça ralentit. On ne peut pas dire que c'est à l'arrêt, hein, mais ça ralentit très nettement.
Ça veut dire que les quelques, pour ceux qui nous suivent régulièrement, parce qu'on se voit à peu près toutes les 5-6 semaines, il y avait quelques grands noms, quelques grosses levées, quelques des tours de table sympathiques. C'est fini, ça. Faut oublier. On va
c'est
être.
C'est pas fini, mais il y en a de moins en moins. Peut-être qu'au semestre, on les comptera sur les dates d'une main. Non, je plaisante, mais c'est vrai qu'au-delà de 100 millions, c'est rarissime. Là, je vous en cite deux, tiens, pour ce premier trimestre. Loft Orbital, je vous en cite deux, parce que vous ne les connaissez pas forcément. Évidemment, ce n'est pas encore des licornes. Donc, Loft Orbital, 170 millions d'euros. Ils sont basés, alors c'est marrant, hein, à Toulouse, mais aussi à San Francisco. Donc, c'est une boîte franco-américaine. C'est peut-être une clé du succès. Ils offrent des services clés en main, donc basés sur les satellites. Ils facturent à l'usage. Alors, c'est pas du mode SaaS avec un abonnement 15, 20, 100 euros par mois. Ils ont déjà séduit de beaux noms. ETL, ça tourne Europe, mais j'ai encore mieux que ça, enfin plus prestige. La DARPA, la NASA aux États-Unis. Oui. Un exemple. Un deuxième, Alice et Bob, eux, ils ont levé 100 millions, tout rond, pépite française du quantique que j'ai eu la chance de recevoir il y a 2 ans maintenant sur mon podcast que vous aviez la gentillesse de citer, donc Tech 45. Alice et Bob, spécialisés dans les qubits de chat de Schrödinger. Ce n'est pas une insulte, hein. Je ne savais pas ce que c'était avant de travailler le dossier, je vous rassure.
Je vous fais totalement confiance.
Donc en gros, c'est quoi les qubits de chat? C'est moins sensible aux erreurs qui sont très fréquents dans tout ce qui est ordinateur quantique. Et du coup, ces erreurs, souvent, elles transforment, elles provoquent des transformations et elles mettent des zéros en 1 ou vice-versa, et ce qui casse un peu, évidemment, les calculs. Eux, ils ont craqué un truc et en tout cas, ils arrivent encore à lever de l'argent et ça plaît aux investisseurs.
Mais là, on est dans deux secteurs qui ont entre guillemets rien à voir.
Si
on essaye de regarder justement secteur par secteur, enfin, est-ce qu'il y a un zoom sectoriel qui est plus favorable, puisque vous nous avez dit qu'on va essayer de dire que tout n'est pas noir?
Tech, deep tech, ça fonctionne très très bien. On sent qu'il faut des innovations de rupture. Et là, ils sont largement en tête avec quasiment 400 millions d'euros levés entre janvier et mars 2025. Derrière, vous avez la green tech. Hein. Il y a beau avoir Trump aux États-Unis, en Europe, on y croit encore, on investit, et en France en particulier, mais sur pas loin de 300 millions d'euros levés. Et derrière, vous avez les logiciels, ils ne sont pas enterrés, ça marche encore. Et en France, on a une vraie patte là-dessus, sur tout ce qui est SaaS, B2B. Et puis, le regain d'intérêt, notons-le, pour la fintech, hein, SoFund, évidemment, on en fait partie, ou tout ce qui est tech bio, biotech, medtech, mis dans la famille des life sciences.
Voilà donc pour le zoom. Si on essaye de regarder devant, dans le temps qui vient, qu'est-ce qu'on espère, qu'est-ce qu'on attend pour le deuxième?
Alors, je ne suis pas devin, mais si je me repose un peu sur les préconisations d'EY, que nous dit le cabinet avec son associé Franck Sebag, il doit y avoir 3-4 priorités pour nos startups, nos scale-up françaises. Quelles sont-elles, Cédric? l'argent, la trésorerie, un cash is king, comme disent les anglo-saxons. Donc, vous devez avoir une gestion rigoureuse de votre trésorerie. Ensuite, les business models, ils doivent être viables. Donc, il faut avoir un modèle économique dont, bah, justement, la priorité, c'est la rentabilité, le fameux break even. Il faut qu'à un moment donné, je perde pas plus que ce que je fais rentrer comme argent. Ça paraît évident de le dire, mais dans les startups, c'est pas toujours le cas.
C'est pas toujours le cas.
Depuis trois ans, elles se sont habituées, mais il y a encore un peu de travail. Et puis, l'expansion européenne, il faut chercher de la croissance en dehors de la France, en dehors des pays plutôt faciles, genre Belgique, Suisse, parfois Espagne, Italie. Il faut aller au-delà, même carrément au global, si on peut, même si évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et enfin, tarte à la crème, il y a deux secteurs porteurs qui sont l'IA et la défense. Et là, tout le monde doit plus ou moins s'y intéresser. Alors, la défense, pas forcément, mais en tout cas, si on regarde l'IA, bah, il faut avoir une couche aujourd'hui d'automatisation, d'IA, d'API, ChatGPT ou Mistral, parce que sinon, on risque de se faire balayer par un concurrent.
Pour terminer, donc, on a bien compris, là, on est le pied sur le frein, ça ralentit, etc. Mais vous nous avez dit, ça ne s'effondre pas. Du coup, vous, de votre poste d'observation chez SoWeFund, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous voyez?
Déjà, on est content de ne pas avoir cédé aux sirènes des modes. Je pense notamment à l'immobilier il y a quelques années où beaucoup de plateformes de crowd sont allées financer d'une manière ou d'une autre la pierre. Et on sait que ça plaît aux Français. Bah, là, vu que depuis 2-3 ans, l'immobilier est beaucoup moins à la fête, ça pèse chez certains de nos concurrents. Et donc, nous, on n'y est pas allé. Mais c'est vrai que sur l'ensemble de l'industrie du crowd equity, crowdfunding, ça a pu être compliqué. Dans le financement, les entreprises, là, en revanche, l'appétit du retail, un des investisseurs finaux, des particuliers que nous sommes, lui, il ne se déblanc pas, il ne faiblit pas vraiment. Notre positionnement donc, chez SoWeFund de leader du co-investissement aux côtés des pros, donc ça peut être des business angels, des VC, hein, des fonds de capital risque ou des family office, bah, là, c'est vraiment un élément de réassurance hein, pour ces particuliers. Et ça marche, notamment chez SoWeFund. On a eu une sortie, donc un exit avec un beau multiple au T1. On aura un autre exit là, qui arrive dans les toutes prochaines semaines au T2. Et puis côté startup, bah, là, clairement, elles ont bien compris, on parlait des entrepreneurs tout à l'heure, l'avantage d'embarquer une partie de leur communauté, des nôtres aussi, de nos investisseurs, 150 000 mine de rien chez SoWeFund, c'est pas rien, et de les transformer bah, comme ça, quasiment du jour au lendemain, en super ambassadeurs dans un contexte incertain où les clients churn, où il est difficile bah, de se faire entendre parce que voilà, on est sur un marché saturé d'images, d'infos, de recommandations, de tout ce qu'on veut, de notifs. Bah, voilà, nos entrepreneurs, ils ne sont pas hors sol non plus hein, chez SoWeFund, donc ils mettent plus de temps à trouver, c'est vrai, un investisseur lead quand ils sont en levée de fonds, à boucler ces mêmes tours de table. L'argent est-il plus rare, Cédric? La réponse est oui. L'ambition, est-ce qu'elle est là? Oui. Et en plus, elle est intacte. Je pourrais même vous rajouter.
Eh bien, c'est convaincu, ça, au moins. Sébastien Coinon, donc, pour SoWeFund et le podcast Tech 45. On se retrouve bientôt.
À bientôt, Cédric.
Et nous, on continue à s'intéresser à votre patrimoine et on va parler SCPI dans un instant.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on termine donc ce numéro de Cœur de patrimoine en accueillant Jonathan Diver. Bonjour, Jonathan.
Bonjour, Cédric.
Merci
comment vas-tu ?
D'être au rendez-vous. Tout va bien et ravi de recevoir Meilleur SCPI une fois de plus pour parler de ce monde des SCPI. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà du marché ? On approche la mi-saison, même si on a encore quelques semaines. Mais voilà, le retour des beaux jours, on se dit qu'on en a fini avec l'hiver. Est-ce que le marché de la SCPI se porte bien, lui ?
Alors, il n'y a pas un marché, mais il y a des marchés des SCPI. C'est important de le préciser parce qu'on ferait, c'est vrai qu'on a connu, on va dire, 10-12 ans de marché unique, monotone. Là, on a des marchés des SCPI. Alors, du coup, c'est super intéressant parce qu'il faut essayer d'avoir une grille de lecture un peu plus aboutie. Et il va y avoir encore des super bonnes performances en 2025. L'année dernière, on a eu des SCPI qui ont distribué jusqu'à plus de 10% de performance, donc plutôt sympa. Il y en a d'autres qui ont dévalorisé, donc il y a aussi...
On en a beaucoup parlé.
Ouais, on en a beaucoup parlé. Mais le problème, c'est qu'en fait, on parle que de celles qui dévalorisent, alors qu'il y en a qui sont en train de saisir des super bonnes opportunités. Hein, c'est un peu, j'allais dire, faut investir au son du canon et vendre au son du violon.
Et d'autant que celles qui ont baissé leur prix de part, etc., sont minoritaires dans la masse, non ?
Il y en a quand même beaucoup qui ont baissé leur prix de part. Il y a à peu près 50% de la capitalisation qui a été affectée. Mais il y a quand même une grande majorité de SCPI qui n'ont pas baissé leur prix de part, voire certaines qui ont fait progresser leur prix de part.
Oui, c'est ça.
Et surtout, en fait, le point qui est important, c'est que les SCPI, elles investissent cash sans conditions suspensives de financement. Dans un monde où les crédits ont augmenté de façon significative en 2023, bah forcément, ceux qui ont du cash, ils sont capables d'acheter dans des bonnes conditions, de tordre un peu les vendeurs. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand il y a des périodes de flou, c'est là où il y a des bonnes opportunités. Et les gérants l'indiquent. Aujourd'hui, il continue d'y avoir des bonnes opportunités à saisir.
Donc le marché, il est, enfin le marché, même si vous avez essayé de me faire dire que c'était les marchés, mais ces SCPI sont toujours dynamiques, c'est durable, parce que on a vu des nouvelles, on a vu des réorientations, enfin voilà, il y a des moments où il a fallu un peu se réinventer pour reséduire dans le contexte un peu troublé.
Alors, je pense qu'il y a, il y a une question un peu de fond, c'est est-ce qu'il y a trop de SCPI sur le marché des SCPI ?
D'accord.
C'est une vraie question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y a trop de SCPI ? Donc, en 2024, c'est 16 SCPI qui ont été créés. Alors, si on le regarde d'un point de vue positif, on voit que les SCPI séduisent plus de 4 millions de Français. Elles ont des outils qui leur permettent aujourd'hui d'être un outil très moderne avec plein de façons d'investir en versement programmé, réinvestissement des dividendes. Elles peuvent désormais bénéficier de revenus complémentaires, les panneaux photovoltaïques par exemple, production d'énergie, etc. Donc on voit qu'elles ont su quelque part répondre à des besoins des épargnants, des volontés des épargnants. Et on voit qu'il y a eu des innovations qui ont été, moi, je trouve assez remarquables au cours de l'année 2024.
Donc, on innove encore dans la SCPI, dans ce produit qui, ne m'en voulez pas, est un vieux produit ?
Exactement. C'est un vieux produit, mais qui a beaucoup d'avantages. Et on innove. Et ça montre que, quelque part, le secteur est porteur. Et on peut saluer, finalement, ce côté R&D, innovation qu'il y a dans le secteur des SCPI.
Qu'est-ce qu'on peut badger innovation dans des SCPI actuels.
Alors,
exemples.
Des exemples, il y a plusieurs exemples. Si on prend par exemple la SCPI Corum USA.
Ouais.
Alors, c'est quand même une innovation absolument géniale de se dire je peux investir dans un véhicule français qui investit aux États-Unis. Alors oui, c'est vrai que...
Lancé à un moment bien particulier.
Lancé à un moment particulier où on a Donald Trump qui revient au pouvoir. Mais c'est une fois de plus au son du canon qu'on peut faire les meilleures affaires. C'est une période qui est compliquée aux États-Unis, mais il y a un momentum pour investir. Et moi, à titre perso, je suis convaincu que c'est maintenant qu'il faut y aller, sur Corum USA. Et Corum USA, c'est une très belle innovation. C'est sans doute une des plus belles innovations des 3-4 dernières années.
Bon, donc Corum USA,
quoi d'autre ? On a la SCPI EPK, donc c'est une SCPI pan-européenne, sans frais de souscription, c'est un peu la mode des sans frais de souscription, mais il y a des frais de gestion qui sont plus importants, complètement pan-européen, avec un gérant qui est très dynamique et qui offre un niveau de rentabilité, je veux dire, presque 8% l'année dernière. C'est quand même chouette de pouvoir se dire, j'investis dès 200 euros et j'ai un niveau de rentabilité qui n'est pas garanti, mais qui est plutôt sympathique. On a une nouvelle société de gestion qui a été lancée fin d'année dernière, Darwin, avec Darwin RE01. Donc, on est dans une dynamique vraiment bien, très digitale, très orientée investissement socialement responsable avec les thématiques ESG. Le niveau d'objectif pour l'année 2025, c'est 7,5% d'objectif de taux de distribution. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, la dernière, alors, il y en a d'autres, hein, Osmo Energy, qui est un peu une logique vraiment, j'allais dire, développement durable, avec des enjeux très forts d'un point de vue ESG. Ce dont je parlais tout à l'heure sur les panneaux photovoltaïques. Les panneaux photovoltaïques produisent de l'énergie. Jusqu'alors, en fait, la SCPI ne pouvait pas capter les revenus. Maintenant, c'est la SCPI qui va pouvoir capter les revenus.
D'accord.
Donc, on imagine ce type de SCPI et d'autres SCPI. Vous prenez la SCPI Activimo de chez Alderan. Ils ont des milliers de mètres carrés parce que c'est une SCPI qui investit dans la logistique et l'activité. Le fait de pouvoir mettre des panneaux photovoltaïques sur les toits de ces bâtiments, bah, ça va générer du revenu. Donc, même si Activimo n'est pas une nouvelle SCPI et qu'elle a 4-5 ans, ça reste une super bonne opportunité.
Bon, malgré tout, le cycle est en train de changer. Enfin, ça rebat un peu les cartes, non ?
Clairement. Et en fait, c'est un peu pour ça qu'au sein de Meilleurs SCPI, nous, on a un agrégateur qui permet de consolider toutes ces SCPI. On est en train de lancer un petit indicateur qui permettra de voir quelle est la dynamique de la SCPI. Est-ce que ma SCPI est dans une dynamique de collecte ? Est-ce qu'elle collecte pour pouvoir saisir les opportunités ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des SCPI qui collectent et ces SCPI qui collectent, Moi, je suis alors.
Donc, ça veut dire que vous allez colorier les SCPI
exactement.
À la sauce meilleure SCPI. Quoi.
Voilà, à la sauce meilleure SCPI, on va les colorier, on va mettre des petits badges pour permettre à l'épargnant de se dire, OK, est-ce que ma SCPI est dans une bonne dynamique? Est-ce qu'elle collecte de l'argent pour saisir les opportunités de marché? Moi, à titre personnel, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le monde de l'immobilier d'entreprise. Et ben, je suis convaincu que le time to market, il est excellent et que c'est le moment de tordre les vendeurs, de leur acheter à la casse des actifs. Et quand ce sera le moment de vendre à des opérateurs qui seront un peu plus moutonniers, on leur vendra très cher, on prendra de la plus-value. Donc ça, c'est première dynamique de SCPI. Après, il y a celles qui se végètent, qui sont un peu stand-alone, pas, il ne se passe pas grand-chose. Puis après, il y en a d'autres, il faut le dire, il y a des SCPI qui, aujourd'hui, détruisent beaucoup de valeur. Et celles qui ont détruit beaucoup de valeur, ce serait bien que collectivement, on se dise un peu pourquoi elles ont détruit de la valeur. Quels ont été les... J'allais dire, qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là ? Voilà. Et moi, je suis convaincu qu'on a un travail collectif à effectuer pour permettre à l'épargnant de se dire, OK, c'est time to market d'investir ou au contraire, c'est le moment de vendre.
Mais ça veut dire, parce que vous avez commencé tout à l'heure en faisant un peu de provoque en disant, y a-t-il trop de SCPI ? Mais ça veut dire que si on vous suit avec ce petit badge qui ne va pas être hyper agréable
pour
à porter...
Pour certains gérants, oui.
Voilà, ça veut dire qu'il... Enfin, vous avez envie de pousser un peu à ce qu'il y ait moins de SCPI, soit qu'il y en ait qui, carrément qui ferment, ou au moins qu'il y ait une consolidation. Enfin...
Oui, c'est, cette question, c'est qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Ça, c'est clair et net.
Donc, il va falloir qu'il y ait du ménage, de la consolidation.
Voilà, il va y avoir de la consolidation. Ouais. Et alors, la consolidation, ce n'est pas je ferme une SCPI, c'est je fusionne avec d'autres SCPI. Ouais. Et c'est ce qui va se passer assez naturellement. Est-ce que c'est grave ? Non. Est-ce que ça va avoir un coût ? Oui, ça aura un coût pour l'épargnant, parce que fusionner une SCPI, ça coûte quand même un peu d'argent. Ça ne se fait pas en claquant des doigts sur
On ne dit pas juste les deux,
voilà,
on remet tout dans le même pot.
Voilà, donc, mais est-ce que ce sera positif ? Oui, ce sera, je pense que c'est important. Et aujourd'hui, les SCPI qui vont quelque part s'en sortir, alors s'en sortir, il y en a beaucoup qui cartonnent, et tant mieux, mais qui vont finalement sortir du lot, c'est celles qui offrent des services à l'épargnant. C'est important que l'épargnant il puisse avoir toute la batterie de services, réinvestissement des dividendes, versement programmé, mensualisation sur les revenus. On a des revenus de part de SCPI où chaque mois, je touche mon revenu comme si j'avais investi dans un appartement ou un studio locatif.
Donc, on ne tourne pas le dos au SCPI, mais on choisit mieux sa SCPI.
On reste très sélectif et c'est pour ça que c'est important d'y aller pas à pas.
Jonathan Diver et meilleurscpi.com qui nous accompagnait. Merci Jonathan d'être passé.
Merci Cédric.
Voilà, c'est la fin de Cœur de patrimoine pour cette semaine. On se retrouve mercredi prochain. Merci de votre fidélité et à très vite.
Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.